Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la musique. Ce soir, Olivier Lam et Joseph Gosse se font face à notre affiche Everywhere at the End of the Time de The Caretaker, Front Row Seat to Earth de Wise Blood et Retiens mon désir de Cléa Vincent. Vers 21h20, Lucille Comeau nous entraînera dans le petit salon pour débattre d'un sujet ô combien d'actualité. Puis bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Panorama 18. C'est jusqu'au 31 décembre au Frénois Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing. Et nous ouvrons cette émission avec un secret en fait très partagé, parce que je ne savais pas que The Caretaker avait d'autres adeptes que moi. La musique de ce projet mené par James Kirby étant tout de même assez particulière, mais j'ai déjà donc deux membres de la secte autour de moi ce soir, ce qui valait largement d'ouvrir notre émission avec ce nouveau disque de The Caretaker, premier de la pentalogie finale annoncée par Kirby sur son Bandcamp, précisant que chacun des disques ira crescendo vers la démence la plus totale et irréversible. C'est tout ça, il a l'air assez mystérieux, mais si vous avez toujours voulu être dans la scène du bal du réveillon dans Shining, une idée certes un peu étrange, mais bon, une seule chose à faire, écoutez The Caretaker, un extrait d'abord de ce nouvel album. Le morceau s'appelle The Loves of My Entire Life. Thank you. pour cet extrait de ce nouvel album de The Caretaker. Joseph Goss, c'est vous qui m'avez appris la sortie de ce nouveau disque. Donc c'est à vous tout commencer pour...
Ça vous a fait plaisir, j'espère.
Ah mais vous pouvez pas savoir. Triple salto arrière. Non, mais c'était une drogue.
C'est effectivement quelque chose de l'ordre de la drogue dans la musique de cet homme. Leland Kirby, James Leland Kirby ou The Caretaker. Son projet The Caretaker se développe beaucoup autour des questions de mémoire, de souvenirs, de choses qui disparaissent dans votre oreille, dans votre cerveau, dans votre tête. Et ça tourne aussi esthétiquement beaucoup autour de cette idée de l'ambiance. Il y a un peu de ça, mais je pense que c'est faussement ça, parce que c'est aussi sa musique est souvent très crissante, elle contient des... Il y a beaucoup de matière, de frottement, de choses qui, lorsque vous les écoutez avec détail, s'installent de manière comme ça un peu... ça cristallise beaucoup de choses. Parfois, ça peut être un peu gênant, un peu déroutant. Ça s'écoute beaucoup, je trouve, sur la longueur. C'est une des rares musiques aujourd'hui, je trouve, qui arrive à installer quelque chose comme ça dans la longueur de l'écoute. Et il a toujours un sens assez juste et exact de votre capacité à écouter, en fait, je crois. Cet album-là, par exemple, et on a l'impression comme ça qu'il est très répétitif dans cette espèce de motif, mais il s'arrête tellement vite qu'on a l'impression qu'il est passé en un clin d'œil et on a envie d'y retourner très 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 souvent. C'est pour ça que moi je l'ai beaucoup écouté en boucle. C'est un disque qui fait partie, comme vous le disiez tout à l'heure, d'une série de 6 albums à venir.
C'est 6 finalement.
J'ai entendu 6.
Ouais, j'ai lu 6. Ah bon, de 2 par an. Les 3 années à venir.
Ah d'accord.
Ouais. Deux
donc
par
c'est
an.
Une, et ça n'est pas une pentalogie, mais une heptalogie.
Non, c'est pas 7, c'est quoi, heptalogie. 6.
Bon,
c'est un sextet.
C'est un sextet.
En tout cas, ça travaille beaucoup sur l'idée de la perte de la mémoire, l'idée de la démence qui s'installe et des souvenirs qui s'en vont petit à petit. Alors apparemment, ce disque-là est le plus facile entre guillemets.
Celui en tout cas, le plus sain.
Le héros a toute sa tête.
Il a toute sa tête. Elle commence à
presque.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le héros en question, le personnage en question, puisqu'il y a un personnage, et ces 6 albums vont montrer la décrépitude de la mémoire, en tout cas de la tête de ce personnage, c'est The Caretaker. Ce n'est pas Leland Kirby, puisqu'il a démenti être victime d'une quelconque démence. C'est la fin de ce personnage, c'est-à-dire que petit à petit, ces disques-là vont mettre à nu ce que c'est que ce personnage pour l'emmener vers sa disparition. Alors, L'histoire est jolie, joliment racontée par lui, etc. Mais je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur la musique elle-même, sur ce qu'on a entendu. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai entendu, j'aimais beaucoup, comme vous, tout ce que j'avais entendu de lui dans les années récentes. Mais ce disque-là m'a touché très particulièrement. Peut-être parce qu'il y a quelque chose d'assez facile, entre guillemets, dans ces motifs de piano. On a l'impression, c'est quelque chose sur lequel il a déjà joué, c'est-à-dire on a l'impression qu'il fait tourner des 78 tours, des vieilles choses. Il y a effectivement cette idée qui est très récurrente chez lui, qu'on est un peu dans la salle de bal de Shining. Il y a quelque chose d'un peu qui fait un peu peur, mais en même temps non, il y a beaucoup de sentiments qui sont en jeu. Mais une fois qu'on a dépassé ça, quand on se concentre vraiment sur la musique, c'est assez fascinant ce qui se passe dans votre tête, c'est-à-dire vous ne savez plus exactement si vous avez déjà entendu ça ou pas. Vous ne savez plus si ce sont des mélodies que vous avez déjà entendues ou que vous êtes en train de recomposer vous-même. Il y a un peu étrangement ce que Michel Chion racontait par rapport racontait du rapport entre les images et le son, c'est-à-dire qu'à un moment votre cerveau crée une collision entre les deux, et là très étrangement ce disque-là se crée une collision entre ce que vous entendez et le monde que vous voyez et ce que vous en imaginez. C'est très étrange. J'ai en l'écoutant, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre des bribes de chansons pop que je connaissais par cœur, mais d'un coup il a pris un bout de ça. En même temps non, j'ai aussi l'impression qu'il joue. On ne sait jamais si c'est joué, si ce sont des 78 tours qu'il a simplement filtrés, mixés avec d'autres choses, ou si ce sont justement des bouts de samples qui sont retravaillés. Ça travaille justement énormément sur cette question d'emprunt, réemprunt, qu'est-ce qu'on associe, comment on redéveloppe, on se réapproprie, on redéveloppe les choses, et comment aussi on les oublie. Donc j'étais assez épaté par ça, et aussi je trouve ça bêtement, mais vraiment très bêtement, très très beau. Voilà.
Ouais, il y a des choses plus bêtes que ça. Mmh. Hein. Olivier Lam, sur The Caretaker.
C'est très juste ce que dit Joseph sur cette impression qu'on a de déjà connaître les chansons. Après, il faut dire que c'est pas le premier disque de The Caretaker, c'est le huitième.
Est-ce que la première fois que vous avez écouté un disque de The Caretaker, vous n'avez pas eu cette impression déjà entendue?
Justement, moi, le truc, c'est que The Caretaker, je l'ai découvert à une époque où James Kirby était extrêmement actif sous le nom de VVM, et il sortait énormément de disques. Il en sortait entre 5 ou 6 par an, qui jouait toujours autour de l'idée de satire de la pop musique. Même si c'était toujours extrêmement personnel, et il y avait quand même toujours une sorte de pesanteur un peu tragique qui pour moi est de l'ordre de l'autofiction de ce garçon que je connais un peu, qu'on a vu quitter l'Angleterre un peu précipitamment pour des raisons un peu mystérieuses, qui est d'abord parti en exil à Berlin et ensuite est parti en exil d'exil de Berlin puisqu'aujourd'hui il habite en Pologne. Et quand le premier disque de The Caretaker est arrivé, James Kirby retraitait déjà énormément de musique préexistante, avec toujours une énorme ambiguïté, on va dire esthétique, qui était est-ce qu'il se moquait ou est-ce qu'il était dans une sorte d'émotion un petit peu qui est entre le ricanement et aussi l'émotion réelle, puisqu'il retraitait des choses et il les rendait extrêmement dérangeantes, soit extrêmement belles. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre des choses, des chansons de pop musique assez repoussantes et les passer par des processus de transformation électronique très simples et les rendait extrêmement énigmatiques, voire vraiment très belles. Et quand ce premier disque de The Caretaker est arrivé, qui s'appelait Music from the Haunted Ballroom, qui était très littéralement l'illustration donc de cette idée qu'il avait eue en regardant Shining, qui était ce moment de musique très court, qui est une transformation électronique. Je ne sais pas qui l'a fait, je ne sais pas si c'est Wendy Carlos qui a travaillé notamment sur les musiques de The Shining, donc de Kubrick à l'époque, mais qui transformait déjà une musique de jazz, de big band des années 30 ou 40, et pour illustrer cette scène, enfin cette scène extrêmement courte et extrêmement énigmatique à la fin de The Shining, juste avant le début du générique, où on voit une photo donc de Jack Torrance, le personnage de Jack Torrance, donc qui est joué par Jack Nicholson,
au réveillon du nouvel an,
voilà, au début du siècle, voilà,
d'une année lointaine,
quelque chose qui n'a absolument jamais été, qui est un ajout de Kubrick par rapport au roman de Stephen King et qui n'a jamais été élucidé, qui sous-entend que tout ce qu'on vient de voir aurait pu arriver dans une sorte de plis de l'espace-temps, ou peut-être que cet homme, en fait, était un fantôme. Voilà. Mais bref, quand ce disque nous est arrivé, on ne savait pas vraiment sur quel pied le prendre. Est-ce que c'était une plaisanterie ou est-ce que c'était quelque chose d'extrêmement sérieux? Il se trouve que par la suite, donc James Kirby a fait de la musique, après un long hiatus de plusieurs années, est revenu avec de la musique, avec un quadruple album sous le nom de Leland Kirby, de musique extrêmement sérieuse, et que du coup, qui a non seulement permis de revoir toute l'œuvre de VVM sous un œil beaucoup plus tragique, mais aussi a donné une sorte d'épaisseur à la musique de The Caretaker, qui avait l'air d'être une sorte de plaisanterie. On a l'impression qu'il avait pris des 78 tours qu'il avait trouvé dans une brocante, qu'il les avait passés dans trois effets, et qu'il avait fait un disque un peu à la va-vite. Et on a découvert que cette musique était finalement beaucoup plus mystérieuse et que peut-être lui il mettait des choses qui étaient beaucoup plus importantes et beaucoup plus intenses et moi du coup je suis revenu sur la musique de The Caretaker beaucoup par des périodes un peu obsessionnelles parce que quand je rentre dans un disque de James Kirby j'ai tendance à y passer beaucoup de temps, j'écoute que ça pendant deux semaines et la musique de The Caretaker effectivement fait ça, donne cette espèce d'impression de distorsion du temps. Il se trouve que ce disque là je l'ai découvert pile au moment où je commençais à lire deuxième roman de Alan Moore, le fameux auteur de bande dessinée, qui vient de paraître là, qui s'appelle Jérusalem, qui est un livre qui se passe entièrement à Northampton, donc dans un endroit l'Angleterre où il a grandi, et qui ne cesse de perdre le lecteur et ses personnages dans une espèce de désordre temporel incroyable entre le 8e siècle et aujourd'hui, et souvent dans le même chapitre. Là, on a vraiment l'impression de rentrer dans une espèce de couloir temporel étrange où on passe d'une période à l'autre. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement anglais, très anglais. Il y a beaucoup d'écrivains qui jouent comme ça sur cette espèce de confusion temporelle. Ce qui fait que cette musique n'est pas que de l'ambiance, effectivement. Elle peut être effectivement, elle vous emporte d'une manière qui est absolument impossible à expliquer. Moi, je trouve très poétique, assez littéraire aussi, très forte. Là, d'autant plus forte qu'effectivement, on est entre la on rentre dans une sorte de début de démence. Donc où il joue sur les ruptures, sur la manière, sur les durées, de manière à commencer à distiller une sorte d'inquiétude. Ça rend absolument. Moi, je suis très impatient d'entendre ce que ça va donner dans les années à venir, parce que on est déjà effectivement dans quelque chose à la fois confortable et extrêmement inquiétant, et on se demande vraiment où est-ce que c'est cette série de disques va nous emmener, quoi.
Alors avant le mot de conclusion, je laisse mon temps de parole pour un peu de musique, parce que j'ai envie de contaminer plus de gens. Donc un autre morceau dont le titre déjà est magnifique, Quiet Eternal Rebellions. Salle de bal, le temps que le morceau se termine, mais il y a encore quelques petits mots, Joseph Gosse,
sur Caretaker. Oui, c'est la salle de bal, ça me fait aussi penser à la dernière scène de Il était une fois en Amérique, vous savez, on voit Robert De Niro en train de
fumer de l'opium,
et avec cette sensation que tout s'éloigne progressivement et que tout n'a été qu'un rêve en quelque sorte, ou un fantasme, et avec ce disque-là, j'ai aussi souvent cette impression de que c'est une musique qui est faite depuis une autre pièce, voire un autre temps, mais vraiment de quelque chose de lointain et dont on n'a que des échos finalement. Et c'est vraiment ça qui est assez beau. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que dans cet éloignement, dans cette distance, quand on essaie de tendre l'oreille, ça force un peu à tendre l'oreille, on voit des ruptures et il y a toujours de l'étonnement dans ces ruptures, parce que d'un coup on se rend compte que les choses sont répétées, mais elles ne sont pas répétées de manière très évidente ou très explicite, et quand on se penche sur la répétition, on se rend compte que ces répétitions ne sont pas toujours très exactes ou très d'un coup ça se distille, il y a des effets de réverbération, justement de délai, d'écho qui sont tout petits comme ça, et je trouve que ça perturbe vraiment les sens, et on s'interroge sur sa propre mémoire.
Non, oui, c'est le James Kirby est assez obsédé par la fin de quelque chose, toujours la fin de quelque chose, la fin d'une utopie qui est en gros l'utopie de la musique, l'utopie sociale de la musique électronique anglaise qu'il a vécu depuis la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Il a fait paraître il a fait rééditer un très beau disque qui était un projet absolument pharaonique de plus de 90 morceaux qui s'appelait The Death of Rave, la mort de la rave. qui a été extrêmement influent parce qu'il y a eu tout un mouvement en Angleterre qui est né sur cette espèce de retour un petit peu, j'ai envie de dire, réflexif sur ce moment un peu raté. Et c'est vrai que là, on est un petit peu dans une sorte de moment un peu étrange de l'histoire de la musique où on a l'impression qu'on est un peu bloqué dans le leg qu'on a de la pop musique du passé. Et je trouve que il nous fait comprendre que finalement c'est pas si grave. Que ce qui compte c'est pas de proposer des choses forcément qui ont l'air nouvelles, mais de plutôt des interprétations en fait. Puisque là, ce qu'il livre est totalement neuf, quoi.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a cette idée qui est assez neuve, qui est que finalement la nouveauté n'est plus si importante que ça. Et qu'on est justement dans une période de réinterprétation, et que c'est la réinterprétation qui est justement qui apporte notre nouveauté.
Et ben on va en parler avec les deux albums qui sont au reste de notre affiche. Mais pour l'instant, on parle de Everywhere at the End of the Time de Caretaker chez Boomcat.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous parlerons donc tout à l'heure de Wise Blood et Cléa Vincent. Avant cela, on suit Lucille Como dans le petit salon. Guilty under take your sides. A lonesome Morgan grinder cries. Silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. I want you, peut-être qu'il parlait du prix Nobel, finalement.
Bien sûr.
Finalement, alors c'est pas Beyoncé qu'on entend là, normalement.
Les Destiny Child.
Les Destiny Child, ouais, mais qui on retient. Qui ouvre le petit salon, mais c'est Bob Dylan.
Oui, car il y a quelques heures, le jury du Nobel de littérature a attribué le prix de cette année 2016 à Bob Dylan pour avoir, je cite, créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine. Dylan, premier musicien donc à être distingué par cette récompense, la réaction qui domine est la surprise. Télérama a d'emblée titré la nouvelle avec un grand point d'exclamation. Pourtant, il en avait déjà été question, notamment en 2011, sa cote était alors très forte, et bien avant, en 96, il faisait partie de la liste soutenue alors par son ami Allen Ginsberg, qu'il avait qualifié de, je cite, « barde et ménestrel américain majeur du XXe siècle ». Alors le communiqué du Nobel rappelle en effet combien Dylan a été influencé par les auteurs de la Beat Generation et par la poésie moderne, et que les textes de ses chansons ont été régulièrement édités en recueil. Sarah Danius, secrétaire perpétuelle de l'Académie, qui a annoncé le prix, donne le nom de l'album de 66, Blonde on Blonde, album emblématique selon elle. Les réactions ont l'air très partagées sur les réseaux sociaux que j'ai consultés juste après l'annonce du prix. Évidemment, ils se sont immédiatement emparés de l'information, donc il y a beaucoup de joie non contenue. Le site Actualité avec 2T, par exemple, qui est un site de référence sur l'actualité littéraire, se félicite du choix du jury en disant « quand même, c'est un prix Nobel qui a de la gueule ». Beaucoup de mépris aussi, affiché par une partie de la twittosphère française, de manière parfois subtile, notamment pas mal de blagues que j'ai beaucoup aimées sur Hugo Frey, présenté du coup pour le Goncourt. Et le prix du tweet le plus drôle revient, comme souvent, à François Bon, qui a écrit « Le Nobel de physique a été attribué à Jimmy Page, mais personne n'en parle ».
Par contre, évidemment, l'événement de Libération demain, vous avez fait de la copie, hein, Olivier Lam, pour le journal de demain, j'imagine.
J'en ai un peu voulu à l'Académie suédoise.
Il a fallu tout d'un coup en écrire des signes et des signes.
Achetez Libé demain, s'il vous plaît, parce qu'on a fait un beau truc, je crois.
Vous en êtes là à supplier les gens maintenant.
Ouais.
Blague à part, Olivier. Bob Dylan.
I want you.
I want you. Ça, c'est Uncle Sam aussi.
Non, mais c'est une super belle nouvelle, je pense, pas seulement parce que Dylan est un de mes 3 ou 4 artistes préférés, mais parce que c'est une très belle nouvelle pour la littérature. Pas parce que Dylan serait un auteur qui serait plus intéressant à lire dans un recueil qu'un autre, qu'un grand chanteur de l'histoire du rock, mais surtout parce qu'il a apporté, il a fait vibrer la poésie, sa poésie, à travers sa voix et sa manière d'être au monde, je pense, extrêmement fort. Pour moi, c'est quand on parle des grands albums, voilà, Blonde Blonde ou Highway 61 Revisited, de certaines chansons, je pense notamment à Desolation Row qu'on a reprise intégralement dans le journal pour montrer un petit peu aussi à quoi ça ressemblait. C'est une figure littéraire absolument immense. Moi, à laquelle je suis très attaché aussi parce que je suis très attaché à la littérature américaine, notamment de cette époque. On sait qu'il a beaucoup, évidemment, fréquenté des grands auteurs. On pense à Ginsberg, un romancier que j'aime beaucoup, qui est mort très jeune, malheureusement, qui s'appelait Richard Farina, qui était l'époux de Mimi Farina, la sœur de John Bess, qui n'a pas forcément réussi son passage, on va dire, à l'écriture, on va dire, en livre. Je pense qu'il y a assez peu de gens qui ont lu son fameux roman expérimental Tarantula en entier. Mais
par Joseph Gosse qui a son exemplaire devant lui, mais on va en reparler.
Pas
très long. Oui.
Je pense que c'est une figure littéraire à travers sa vie entière et la manière dont il a porté ses chansons avec sa voix, la manière dont il a cessé de les transformer, son exigence, aussi son opacité. C'est comme il le dit lui-même, on comprendra ses chansons que dans. Lui, il estime qu'on comprendra ses chansons à peu près dans 100 ans.
Voilà. Ouais, faut se méfier de ce que disent les auteurs.
Mais en sachant lui-même, je pense qu'il y a beaucoup des phrases qu'il a écrites qu'il ne comprend pas lui-même. Voilà, mais c'est. Non, je trouve que c'est une belle nouvelle parce que c'est un auteur avec un grand A, extrêmement exigeant, avec lui-même avant tout. Voilà.
Bon, j'espère. Alors, je serai plus certainement à l'antenne à ce moment-là. J'espère que Robert Smith sera le prochain dans une trentaine d'années. Non, à propos de gens dont on ne comprend pas toujours les paroles et on les comprendra sans doute jamais, celles de Cure, mais elles sont magnifiques pour autant. Moi, j'ai grandi en écoutant les disques de mon grand frère, de Bob Dylan, donc je suis ravi de ce prix Nobel. Joseph Gosse, vous avez donc ce Tarantula qui est quand même épais.
Non, il n'est pas très épais. J'ai ça depuis assez longtemps dans ma bibliothèque parce que Dylan, pour moi, a toujours été quelqu'un d'assez protéiforme. Et je trouve que le choix de ce Nobel est un choix très pop et un choix très très contemporain et tout à fait bienvenu, surtout dans un moment où on n'arrête pas de célébrer la Beat Generation et finalement de la Beat Generation il ne reste presque plus que lui parce que tous les grands sont morts. Rose, Ginsberg, Kerouac, ça fait longtemps qu'ils sont plus là. Et il est un peu l'espèce de ralliement à ça. Il est aussi une figure, comme le disait Olivier, une vraie figure littéraire pour sa vie, ce qu'il en a fait. Et le film I'm Not There, d'il y a quelques années, montrait bien ça, cette espèce de complexité très romanesque du personnage. Et son rapport au mot est évidemment un rapport qui a forgé des générations de songwriters après lui. Un rapport au mot qu'on voyait de manière comme ça très très immédiate dans ce vous vous souvenez dans ce film dans ce clip où on le voyait égrener comme ça les mots de sa chanson comme pour signifier l'impact de chaque mot. Donc c'est vrai que Dylan en tant que qu'auteur de mots, qu'auteur lettré et auteur littéraire est quelqu'un qui compte sans doute aujourd'hui beaucoup plus que beaucoup d'autres écrivaillons un peu inconnus.
Bon. Réjouissance autour de cette table. Bon, à part Lucille Comment, c'est notre affaire.
Moi, c'est plutôt de l'indifférence.
C'est de l'indifférence. Ça vous angoisse un peu quand même.
À la musique, vous voulez dire? Oui, un peu, mais bon, ça
c'est pas très grave. Bon, indifférence et réjouissance. Pour ce prix Nobel de littérature 2016 décerné à Bob Dylan. Le deuxième album à notre affiche, c'est celui de l'américaine Natalie Mering, qui sort son quatrième album sous le nom de Wise Blood. Enfin, les orthographes varient, mais après avoir frayé avec Jackie Oh Motherfucker et Ariel Pink, notamment, avant d'en parler, on écoute un extrait de ce nouvel album intitulé Front Row Seat to Earth. Le morceau que nous avons choisi s'intitule, lui, Generation Y.
And sinking ship alone. I can give it away every day. I can fly and spend all my seconds like they're my last. It's not the past that scares me. Now what a great future this is gonna be.
Chacun sa déprime. C'est le combo, moi ce sera moi, It's Blonde ce soir. Mais je sais que cet album va être brillamment défendu par Olivier Lam, déjà.
Je ne sais pas si je serai brillant, en tout cas je serai.
Mais vous serez concis. En tout cas, vous voilà. Serez concis.
Je serai concis l'annonce. Et fervent, d'accord. Non, alors je me permets de vous. D'indiquer un petit peu ce qu'on vient d'entendre quand même, parce qu'effectivement.
Je crois que c'était un morceau d'Enya, c'est pour ça que.
Qui commence comme un morceau de, je sais pas, de Judy Seal ou de Joni Mitchell et qui finit comme.
Un morceau de Nia,
mais qui dont le refrain quand même est reprend le fameux motto de Drake, YOLO, mm-hmm. You Only Live Once, et elle demande pourquoi. Non, je c'est pas le refrain, c'est YOLO, qui pose cette question en plus à sa propre génération, qui est la génération Y. Vous avez compris le jeu de mots.
Oui, c'est une Y.
C'est tout ça pour dire que ce disque, qui utilise des archétypes musicaux, effectivement, qui sont assez connus, je trouve de manière extrêmement fine et complexe, puisque souvent, dans la même chanson, d'une mesure à l'autre, on a l'impression de glisser d'une décennie à l'autre, voire d'un territoire musical à un autre, parle de choses extrêmement actuelles, et ça, bon, on l'a interviewé avec Julien Gester hier pour une interview à venir la semaine prochaine dans Libération.
J'ai hâte de lire ça.
Achetez-le, s'il vous plaît, je vous en prie.
Ce jour-là,
mardi. Ça devient une réclame pour Libération, c'était
bien sûr. Achetez Grazia aussi, hein. Joseph est là quand même, bon.
Achetez Grazia aussi, mais... après Libération.
Mais c'est qu'une fois par semaine.
Si vous avez assez d'argent. non, c'est un disque qui, c'est un disque qui est à la fois.
Vous avez interviewé, vous êtes tombé amoureux, puis voilà.
Non, pas du tout. C'est tout. Je suis amoureux de ce disque, effectivement. Je trouve que c'est une splendeur, vraiment, qui ne livre pas sa magie tout de suite. C'est-à-dire que moi, la première fois que je l'ai écouté, je connaissais ses disques précédents, surtout le précédent. Qui était plus, comment dire, plus feuilletée, plus dense, c'est-à-dire qu'elle reprenait quand même énormément d'éléments de son passé musical qui vient d'une musique d'avant-garde, en fait, et dont elle a sale. Vraiment laissé tomber un petit peu les choses petit à petit d'un disque, de disque en disque, comme des sortes d'oripones, et là, elle fait son premier disque d'obédience réellement pop. Classique, et je trouve que ça marche extrêmement bien à la fois sur un plan conceptuel et sur un plan mélodique, puisque je trouve que ces mélodies infusent vraiment, et en plus quand on écoute ce qu'elle raconte, ça fait vraiment une caisse de résonance avec une espèce de discours qui reste quand même très poétique, hein. C'est quand même pas un disque, c'est quand même pas un disque conceptuel sur la génération actuelle, mais et je trouve que du coup on arrive à un objet voilà extrêmement contemporain et aussi très beau. Voilà, on n'a pas parlé de sa voix. Moi, je trouve que là, on a vraiment, elle se révèle, surtout sur ce disque-là, comme vraiment une des plus belles voix de l'indie rock contemporain. Pour moi, je la mets vraiment dans la même, on va dire, dans le même groupe d'artistes que Julia Holter,
oui.
Qui est une autre Californienne qui.
Je préfère nettement.
Qui pareil, est extrêmement attachée à son background de compositrice d'avant-garde, et qui n'a pas été aussi loin dans une espèce de volonté de classicisme. Je pense que c'est un disque qu'on écoutera longtemps.
Voilà. Ouais, alors, j'ai peut-être pas assez infusé, hein, c'est possible. C'est vrai que je ne l'ai pas écouté énormément, mais quand on a un nouveau The Carnaker, on a du mal à écouter autre chose. J'ai beaucoup écouté Cléa Vincent, ils nous en reparleront tout à l'heure. Mais c'est vrai que je la préférais un peu plus sale, moi, Wise Blood. C'est vrai que je me souviens du premier album, me semble-t-il, qui était quand même encore très ancré, avec beaucoup de salissure. Là, j'ai l'impression d'une version nature et découverte, un peu. Joseph Gosselin.
C'est vrai que vu son passé, c'est intéressant de voir là où elle en est arrivée. Jackie O Motherfucker, dans mon souvenir, je les ai vus quelques fois, j'ai écouté pas mal leurs disques. C'était une sorte de groupe un peu post-rock d'Americana. Je dirais pas tellement d'avant-gardiste, mais vraiment une sorte de groupe de rock un peu bruitiste qui sur scène faisait des reprises de Karen Dalton, noyé un peu dans une espèce de bruit de fureur qui était plutôt bien maîtrisé, avec un côté un peu free jazz, mais bon, plutôt blanc. C'était plutôt bien, et c'est vrai que écouter cet album aujourd'hui semble une progression assez logique de quelqu'un qui s'assagit en vieillissant. Comme le disait Olivier, c'est vrai que c'est très beau. C'est très beau. Les morceaux sont, les arrangements sont d'une très belle subtilité. Ça glisse comme ça, de manière très très jolie, très subtile. On se retrouve dans des ambiances un peu différentes d'un moment à l'autre dans le même morceau. Et tout ça parle de ce que j'en ai entendu en essayant de décortiquer un peu les paroles. À la fois, ça joue à la fois sur ce côté justement génération Y, etc. Mais aussi beaucoup sur des questions très intimes d'histoire amoureuse un peu rompue, d'histoire un peu désespérée. De ce côté-là, c'est pas mal, mais ça reste quand même dans une écriture un peu post-adolescente de troubles pas totalement réglés. Ce qui est, à mon sens, le point d'ancrage le plus fort du disque, au-delà de tous ses talents musicaux et de ses arrangements, etc., ça reste sa voix. Et sa voix est à la fois extrêmement charmante, envahissante. Elle rappelle évidemment immédiatement Judy Seal, que citait Olivier, mais aussi Joni Mitchell, toutes ces chanteuses américaines, mais aussi quelques anglaises, à la Vashti Bunyan, etc., qui ont été redécouvertes dans les 15 dernières années, et qui, semble-t-il, ont elles, très bien infusé, au moins en Amérique. Donc on retrouve ça chez elle. Sans doute sa voix n'est-elle pas sans doute n'est-ce pas de son fait, parce que c'est sa voix, elle est comme ça, et il faut bien en faire quelque chose. Le problème, c'est que par moment, et par plusieurs moments, c'est plutôt assez littéral. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette impression d'être confronté à un objet fait dans le passé. Pourquoi pas? Comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus de nouveauté et tout n'est que recomposition, redécouverte, etc. Mais à un moment, quand même, ce qui me dérange, c'est que c'est très joli, mais ça ne reste pas. Contrairement à Olivier, moi, ça ne reste pas en moi. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quand même un moment où les chansons sont jolies, mais il manque un hook, il manque le truc qui fait que ça vous reste un tout petit peu plus vrillé dans le cerveau. Peut-être que ça va arriver, c'est-à-dire que effectivement on assiste là à un processus de décantation et de filtrage et de choses qui sont en train de partir doucement, et on a plutôt envie de voir ce qu'elle va faire et ce qu'elle va devenir. Et juste pour finir, c'est pour moi il y a quelque chose d'assez fragile dans son côté un peu poster girl d'une génération. On a l'impression, vu la pochette, etc., que c'est une jolie fille et qu'on va aussi quand même beaucoup la juger sur ça. Je n'en ferai pas une couverture de Gradia, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui a surveillé aussi.
À surveiller. On va pas vous réconcilier ce soir, mais on garde de la place pour le troisième album. Mais en tout cas, Front Row Seat to Earth de Wise Blood, sorti chez Mexican Summer Kemando Records, en concert à Paris, à l'Espace B, le 21 novembre.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et nous poursuivons cette dispute avec le quota français, je plaisante, mais il est important que les artistes français soient et leur place dans nos disputes musicales, et donc sous la pression insistante de Lucille Como, c'est donc de Cléa Vincent que nous allons parler, révélée par un premier EP début 2014, devenu single de la compilation de la boutique Colette, où s'habille Lucille Como, relayée par les Arock, dont Lucille Como est le cerveau en fait. Et donc maintenant officiellement par Lucille Como, ce premier album qui assoit la rencontre de la jeune femme avec Raphaël Léger, le batteur de Tahiti 80, arrangeur et co-compositeur avec Cléa Vincent, en guise d'extrait, le morceau « Je m'y attendais pas ».
J'ai cherché l'amour dans les yeux des uns des autres, mais aucun n'a fait son lit dans mon nid de chercheuse d'or, des histoires des entre-deux. J'en ai eu des tas, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas, je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Je me suis débattue dans les sables mouvants, j'ai érigé des remparts. Ils n'ont pas tenu longtemps, l'amour sans horizon, je l'ai vu 10 fois 100 fois, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas.
Je suis
Je m'y attendais pas, extrait de cet album de Cléa Vincent, le Ciel Como, pour la peine, à vous l'honneur.
Mais alors vraiment, je serais bien en peine de dire quoi que ce soit parce que j'ai un rapport totalement primaire à cette musique-là, qui est un rapport de danse en fait. Donc à part danser dessus, je vraiment trouver des choses à dire intelligentes, je crois que je vais passer mon tour.
Le rapport primaire, il est important.
Bah voilà, bah du coup, il s'exprime très simplement par je trouve que ça danse bien. Enfin, c'est dansant et ça me plaît. Voilà.
Joseph Gosselin.
On peut danser intelligemment, il paraît.
Ouais. Je crois qu'il y a un mouvement, donc.
Il paraît, oui. Bon, c'est un vieux mouvement. J'étais très agréablement surpris par ce disque. Un peu rétro.
Très
rétro pop, très très rétro, mais je trouve très forte cette espèce de à la fois de candeur et de froideur qui est en permanence en jeu dans ce qu'elle chante, dans ce qu'elle raconte dans la musique, et avec espèce d'aplomb, notamment quand elle fait un morceau comme Électricité, qui est une espèce de pastiche de Kraftwerk,
plus Lio,
etc. Donc, après ce qui m'a intéressé, c'est que évidemment d'emblée moi je pense à Élie Jacquenot.
Ah oui.
Sauf que ce qui est intéressant, c'est que Élie Jacquenot était dans une sorte de dramaturgie de leur couple, main dans la main, etc., amoureux solitaire. Alors que là, on est vraiment dans l'esprit d'une jeune femme, d'une jeune femme de 2016, dans tous ses errements, son espèce de fragilité amoureuse. Là encore, on en parlait un peu tout à l'heure. Il y a un peu de ça. J'aime bien cette espèce de descente dans cet esprit-là. Il y a un peu pour moi tout au long du disque une sorte de journal de la transformation de soi, l'impression de voir une jeune femme en train de grandir, de se sortir de d'histoires amoureuses, de se sortir aussi peut-être d'une musique un peu trop marquée, un peu trop datée, même si effectivement ça danse bien. Mais c'était une très agréable surprise.
Bon, Olivier Lam, bonne surprise.
Oui, d'autant que vraiment la pop synthétique française, moi, j'en peux plus. Vraiment, pour moi, c'est le.
Vous mettez qui là-dedans?
Je mets énormément de monde.
Non, mais c'est visiblement, ça m'intéresse.
Vous voyez tous ces groupes qui passaient au Grand Journal et qui maintenant passent.
Ah, j'ai jamais vu le Grand Journal de ma vie, donc.
Il y a plein de groupes de type habillés de toutes les couleurs et qui font une espèce de truc post entre Phoenix et des références un peu plus années 80 et qui font une musique totalement inoffensive, petite bourgeoise, qui ne s'intéresse absolument pas au monde tel qu'il va pas surtout, et qui m'insupporte même comme une espèce de symptômes, vraiment de tourner le dos à tout. Et là, il y a une incarnation qui est absolument indiscutable, qui est cette voix, cette espèce d'apparition, cette espèce de jeune fille qui...
Vous avez dépassé votre quota d'espèce depuis longtemps, mais bon, je voulais être gentil avec
mais
vous
je l'ai
ce
dépassé
soir,
en 2005.
Ouais.
Non, qui est entre une espèce de...
Non.
De oh là là, je vais pas y arriver. On est entre une candeur et une surconscience, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu, je pense, dans la voix d'une chanteuse depuis très longtemps, depuis Annie Medeiros, ou cette époque, on va dire entre le début et le milieu des années 80, où en France on faisait de la pop assez perverse finalement, où on avait l'impression de chanter uniquement le sexe, l'argent, et finalement on chantait beaucoup le doute. Et là je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très pertinent dans son existence, dans sa manière de chanter. Elle a vraiment une, c'est totalement, moi je la trouve vraiment irrésistible comme chanteuse, mélodiste aussi. Je suis moins intéressé par les arrangements du disque, que je trouve un peu, j'aime beaucoup Tahiti 80, je trouve vraiment que c'est un des groupes de pop les plus précieux qu'on a en France. Là je trouve que c'est un peu, voilà, ce côté un peu dansant, je trouve ça un petit peu pas forcément très pertinent, et je trouve pas que plastiquement le disque soit passionnant. On est vraiment dans quelque chose de, pour le coup, voilà, de pop électronique, petite bourgeoise dont je vous parlais tout à l'heure, mais elle surnage avec son identité. Pourtant elle a des références, moi, de trucs Mustang, Pauline Croz, qui m'intéressent absolument pas, mais elle est
ça, c'est la transmutation,
elle est vraiment, son existence de pop est vraiment délicieuse, quoi, et ça marche pas sur tout le disque, mais je trouve par exemple que je m'y attendais pas, et vraiment c'est vraiment
assez imparable.
Tubes. Ouais, c'est vraiment imparable. Et puis,
Mais c'est vrai que les arrangements, il y aurait à dire. Alors, j'étais très surpris. J'ai retrouvé un son de synthé que j'avais pas entendu depuis le deuxième disque de Human League Travelogue, leur chef-d'œuvre. Donc c'est sorti en avril ou en mai 1980. Donc voilà. Non mais j'ai recherché la date de sortie du coup. C'est mai 80, je crois, précisément. Mais les arrangements sont pas ce qu'il y a de meilleur, sauf comme on vient de l'entendre sur ce morceau, effectivement, qu'on a choisi. Moi, en fait, c'est pas ni à Ellie, ni à Jacno, ni à Ellie toute seule. Elle me fait penser, par sa pertinence, à Étienne Dao, en fait. Étienne Dao de ce début des années 80 que vous évoquiez à l'instant, sur quelqu'un qui existe véritablement dans un monde quand même, voilà, un peu, on va dire, pastel, un peu pop, un peu, qui a l'air assez gentil, simple comme ça, et qui existe quand même véritablement, Joseph Gosselin.
Moi, ça m'a fait penser à quelqu'un qui a à la fois écouté des disques, mais aussi regardé la télévision, et notamment la façon dont on chante à la télévision, et qui a réussi à mixer les deux. Et je pense qu'Étienne Dao avait aussi ça, enfin, il a toujours, c'est-à-dire cette possibilité d'incarner une pop star de la télévision de grande écoute.
Alors, j'ai pas
avec
vu
son
encore
chant.
Cléa Vincent, parce que je sais qu'il y a pas mal de clips, oui. Il y a un univers, Lucille, comment, l'univers visuel de Cléa Vincent.
Il y a un clip que j'aime beaucoup, c'est Les Châteaux Perdus, en fait, c'est la chanson que j'ai découverte en premier, dont les paroles sont très étrange d'ailleurs par rapport à celle qu'on vient d'écouter, je la trouve plus intéressante de ce point de vue là et le clip est pas mal, elle danse bien, enfin elle a quelque chose,
le corps toujours. Joseph,
oui, c'est ça, on a l'impression qu'elle existe effectivement dans cette espèce de synthèse ou de dualité entre des chanteuses assez mainstream. En tout cas, elle en a cette possibilité là on a l'impression qu'elle a cette possibilité là et quelque chose de beaucoup plus peut-être un peu plus opaque, un peu plus mystérieux. Moi, c'est vrai que les certains passages de l'album, enfin en tout cas les arrangements parfois sont un peu rétro, etc. sont pas forcément toujours très intéressants. Mais il y a quand même des passages, notamment des passages instrumentaux, un moment vers la fin du disque, qui sont assez beaux, assez surprenants. En tout cas, ça se laisse le temps un peu de s'installer, de jouer, etc. sans qu'il y ait forcément sa voix. Et c'est assez joli, assez agréable. C'est vrai que votre comparaison avec Étienne Dao est assez juste. Ça rappelle dans l'atmosphère globale de cette personne un peu entre des mondes, l'ambiance ou l'esprit de certains albums de Dao, comme par exemple La Notée, où on est confronté à l'intimité d'un personnage qui ne sait plus s'il doit sortir ou pas, aimer ou pas, qui aimer, etc. Il y a un peu de ça.
Bon, je suis heureux que la comparaison vous seille, mais c'est vrai que sur les arrangements, juste, moi je connais pas la version originale de Retiens mon désir, je vois qu'elle a été réarrangée pour cet album, et là j'ai l'impression d'entendre un mauvais France Gall, c'est quand même un peu gênant.
Il n'y a pas de mauvais France Gall.
Non, il n'y a pas de France Gall.
Est-ce qu'il y a un bon France Gall?
Non, mais c'est vrai qu'elle a erré un moment dans les limbes parce qu'elle avait été signée. Elle fait partie de cette
horrible sur une major, mais qui a jamais sorti.
Elle fait partie de cette stratégie bizarre des majors. Il y a quelques années où ils signaient 10 artistes et puis ils les laissaient se débrouiller sans leur donner un centime. Et s'il y en avait un qui arrivait à tirer son épingle du jeu en se débrouillant tout seul sur les réseaux sociaux, et bon, on lui donnait de l'argent pour faire un album. Et elle a enregistré un disque qui n'est jamais sorti, parce qu'elle était soi-disant trop bizarre, trop étrange. Et là, on prouve que non, elle n'était pas bizarre ni étrange, elle était juste intéressante.
Intéressante. Cléa Vincent, Retiens mon désir, c'est chez Midnight Special Records que sort enfin donc ce premier album, et pas chez une major. Alors en ce moment même, elle doit être sur la scène de chez Madame Arthur. Elle sera samedi au Club Coatelan à Plougonven, avant la Flèche d'Or le 28 octobre, la Maroquinerie le 6 décembre, donc deux dates à Paris prochaine, et puis Vers le Petit le 14 janvier, c'est dans le cadre du festival C'est du Live. Et avant de conclure tout à fait cette émission, le jeu de la dispute, Lucille Como, avec tout d'abord un retour sur le jeu d'hier au soir.
Oui, la question était la suivante. Bertrand Tavernier a réalisé en 2009 un film aux États-Unis, Dans la brume électrique, dont le héros interprété par Tommy Lee Jones est le héros récurrent des romans de James Lee Burke. Comment s'appelle-t-il? Et la réponse est Dave Robichaud.
Ce soir, des invitations à gagner pour l'exposition Panorama 18 jusqu'au 31 décembre, à découvrir au Frénois, Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing. Quelle est la question?
Cette école du Frénois a ouvert en 1997 dans un bâtiment entièrement rénové. Qui est l'architecte qui l'a dessiné?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Lucille Como, Olivier Lam et Joseph Gosne d'y avoir pris part avec moi. Les informations sur cette émission à retrouver sur franceculture.fr à la page de la dispute. Merci à l'équipe qui prépare cette émission, Virginie Leduo, Josué Morel et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Cédric Châtelus, réalisation signée Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la bande dessinée en compagnie d'Antoine Guillot et Joseph Gosse. À notre affiche Hergé, l'exposition qui a lieu en ce moment au Grand Palais à Paris. Et puis nous parlerons de Patience, le nouvel album de Daniel Klaus chez Cornelius. On évoquera aussi Prisonnier des glaces de Simon Roussin chez 2024 et Martha et Alan d'Emmanuel Guibert à l'association. Tout cela, c'est pour demain. D'ici là, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.